Vous suivez les programmes du studio Kalangou et il vient d'être 18h. Votre édition de ce mercredi 14 novembre 2018, c'est avec Rukaya Top Drama, les titres. Avec 4,3%, le Niger a le taux de prévalence du diabète le plus élevé de la sous-région. À l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée aujourd'hui, 8% des personnes dépistées dans les centres urbains et 6% en campagne seraient diabétiques. Le banditisme grandissant dans la région d'Agadez a amené 18 chefs de village administratifs des départements d'Aderbisnet et de Tchirozérine à dénoncer publiquement cette situation. La teneur de la déclaration dans ce journal. Depuis l'hébergement des migrants dans un centre de l'OIM dans un quartier à Agadez, la cohabitation avec les habitants devient risquée avec plusieurs cas d'harcèlement de femmes enregistrés. Vous suivrez les détails en partie magazine de cette édition. Bonsoir à tous. La famille et le diabète est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du diabète. La prévalence actuelle du Niger est de 4,3%, l'une des plus élevées de la sous-région. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique. Le stade général Saint-Nicountié est un des 11 sites dédiés à la population de Niamey pour se faire dépister. Selon le spécialiste, entre 8h et midi, plus de 300 personnes ont été dépistées. Il précise aussi que dans les centres urbains, 8% des personnes dépistées seraient diabétiques et 6% en campagne. Docteur Mohamed Sani Mohamed Aminou, diabétologue à l'hôpital national de Niamey.
Cette journée dédiée à la lutte contre le diabète, c'est de lancer un appel à la population en général pour qu'elle puisse faire le dépistage, connaître son statut par rapport au diabète, pour la prévention du diabète. Pour ceux qui sont diabétiques, profitez pour qu'on leur donne des conseils ici à lieu et place pour la gestion de leur diabète. Nous sommes actuellement à plus de 300 personnes qui sont dépistées. C'est surtout la population adulte. Et justement, c'est cette population qui est concernée par le diabète. Les personnes qui ont un âge de plus de 30-40 ans et surtout des personnes obèses et des personnes qui ont une hérédité dans leur famille pour le diabète. Dans les grandes villes, c'est à peu près 8% des personnes qui sont dépistées. Dans les campagnes, c'est 6%. Si on a dépisté 10 000, 8%, ça fait à peu près 800 qu'on va trouver avec le diabète.
Propos recueillis par Rahila Toussoumana. Jeunesse et édification de la paix à travers le dialogue interconfessionnel est le thème retenu pour la deuxième édition du forum inter- et intra-religieux organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Niamey aujourd'hui. Ce forum de 48 heures réunit les leaders religieux de cet espace. Pour Birgi Raffini, Premier ministre du Niger, l'un des objectifs de cette rencontre est de créer une plateforme régionale interreligieuse de prévention et de règlement pacifique des conflits. On l'écoute au micro de Habib Garba.
Promouvoir la paix au moyen du dialogue intra- et interreligieux n'est pas au-dessus de nos capacités. Nos religions nous en donnent les instruments. Elles proclament toute la paix et la tolérance. Aussi, les objectifs de ce forum sont-ils de faire le bilan du niveau actuel de mise en œuvre du dialogue intra- et interreligieux dans les États membres, de s'approprier les meilleures pratiques de la jeunesse en matière de dialogue intra- et interreligieux, de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la radicalisation et de l'extrémisme violent, d'identifier les causes de l'implication des jeunes dans les mouvements terroristes et conflits dans la région, et enfin créer une plateforme régionale interreligieuse de prévention et de règlement pacifique des conflits. Cette rencontre sera désormais organisée de manière tournante dans chacun des États membres de la CEDEAO.
18 chefs de village administratifs des départements d'Aderbisnat et de Tchirozérine, région d'Agadez, ont dénoncé la situation de banditisme qui sévit dans la zone. Ils ont rendu public à cet effet dimanche une déclaration lue par Ousmane Aboubakar, chef du village Tajaben Fourage.
Considérant la menace grave que fait peser le banditisme sur la vie des paisibles citoyens, considérant la détérioration de l'environnement du fait de l'action combinée de l'homme et de l'avancée du désert, considérant que la sécurité, le bien-être de tous et la préservation de l'environnement doivent être la préoccupation de tous les citoyens, décidons de ce qui suit sur le plan sécuritaire de combattre le banditisme armé sous toutes ses formes en dénonçant tous ceux qui alimentent l'insécurité dans nos campagnes et d'unir toutes nos forces en vue de collaborer sincèrement avec les forces de défense et de sécurité de notre pays. Nous nous engageons à cultiver la paix et la cohésion sociale conformément à notre mission de leader de communauté. Sur le plan de la protection de l'environnement, affirmons notre engagement ferme dans la lutte contre toute exploitation de la paille et du bois dans nos espaces sans autorisation légale.
Propos recueillis par Anissé Karim. Une importante communauté malienne vit au Niger et partage une longue histoire de vie commune. Aujourd'hui, ils sont environ 2 millions de ressortissants maliens vivant au Niger officiellement selon le président du Haut Conseil des Maliens au Niger. Parmi ces ressortissants se trouvent des personnes à la retraite qui sont de deux ordres. Souleymane Maïga, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens au Niger, nous explique qui sont ces deux groupes et comment ils perçoivent leurs pensions respectives. Il est au micro d'Alassane Kouzi Mamadou.
Il y a des retraités maliens qui dépendent de la fonction publique nigérienne payée par l'État du Niger. Il y a une deuxième catégorie de Maliens qui résident au Niger et qui sont là, qui vivent les mêmes conditions que les Nigériens, qui sont sur la fonction publique malienne, qui reçoivent leur pension de l'État du Mali.
Comment est-ce que ces gens qui sont installés au Niger arrivent à percevoir leur pension?
C'est des gens qui sont là, qui peuvent aller eux-mêmes au niveau du Mali prendre leur pension, ou bien c'est des gens qui ont des personnes là-bas à qui ils ont fait des procurations, qui chaque fin du mois vont au trésor récupérer leur argent et les envoient par Western Union ou bien par mandat. Et ces mêmes personnes que l'État du Mali dit qu'ils viennent se présenter dans les ambassades. Parce qu'à partir du 1er janvier, ils n'auront plus leur salaire s'ils ne se présentent pas physiquement. En se présentant à l'ambassade, ils ont des documents que l'ambassade leur donne pour remplir. Et ce sont ces documents-là qu'on transmet au niveau du Mali à Bamako pour le paiement.
Le retard dans le paiement des arriérés des bourses et de l'aide sociale, objet d'un ultimatum adressé au gouvernement hier par les étudiants de l'université de Maradi. Sanigar Baharouna, le secrétaire général des étudiants de Maradi, au micro de Mohamed Mama.
Les autorités ont un délai limité pour faire atterrir la bourse du deuxième trimestre pour les étudiants n'ayant pas été désintéressés et la bourse du troisième trimestre pour tous. Sans oublier la question de l'aide sociale. Ces questions-là sont au cœur des préoccupations pour lesquelles le comité exécutif de l'UNUM a décidé de venir se faire entendre pour que quand adviendra malheur, qu'on n'emprunte pas les étudiants pour responsables. Nous voudrons la stabilité. Nous voudrons à ce que l'académie à l'université de Maradi puisse évoluer à un rythme rassurant, à un rythme qui garantit un avenir radieux et un avenir professionnel meilleur pour l'ensemble des étudiants. Et pour que cela soit, les autorités n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de mettre les étudiants dans leurs droits, ni plus ni moins.
Toujours avec les grèves, cette fois-ci à Zender, le retard accumulé dans le paiement des bourses, allocations et pécules, insuffisance des fournitures scolaires, manque de table-banc, insuffisance de matériel de stage et d'enseignants dans plusieurs instituts et écoles professionnelles, le motif du dépôt d'un ultimatum de grève d'une semaine à partir d'hier par le comité exécutif des étudiants des écoles professionnelles de Zender. Aboubakar Sourumbay, secrétaire général de la section de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Zender, au micro d'Ali Keita, notre correspondant local.
Nos camarades aujourd'hui sont en train de vivre les martyrs de leur chair. Les camarades qui sont ici, des zones éloignées, ils ont 18 mois d'arriéré des bourses. Et nous avons des camarades de CET et CFM qui ont des arriérés de 17 mois. Nous avons aussi les camarades boursiers de la NAP qui, d'ailleurs, à la date d'aujourd'hui, la première tranche doit être payée, mais même la troisième tranche de l'année précédente n'a pas été payée. Et il y a aussi la bourse de vacances que nous attendons toujours. Donc nous avons dit que nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à ce genre de situation. Quand vous prenez nos camarades de CET et CFM, ils n'ont pas de table banc, ils n'ont pas de matériel pour les travaux pratiques. C'est le même cas au niveau de LPANA, au niveau de CFT, au niveau du lycée professionnel. Au niveau de CFM et CET, la classe de 6e n'a pas encore effectué la rentrée.
Le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et les transiteurs du Niger ont trouvé un terrain d'entente avec les services de douane à propos de la circulaire interdisant d'écouler des marchandises dédouanées dans une autre localité. El Hadj Sani Chekaro, président du dit syndicat, au micro de Gungu Mamman Dantani.
Une circulaire dit que les marchandises de Niamey, Dosso, Dawa, Maradi ou de Zender ne doivent pas circuler d'une localité à une autre. Et c'est ce qui a suscité notre réaction. Qu'est-ce qui vous a convaincu à lever le mot d'ordre de ville morte? Nous avons décidé de faire cette ville morte. C'est justement le fait de nous interdire la circulation des marchandises. Étant donné que tout est revenu, alors il n'y a plus d'obstacle. Nous avons eu une rencontre avec la direction des douanes, à l'issue de laquelle l'interdiction a été levée. Alors, en tant que bons citoyens, nous devons aussi lever notre mot d'ordre. Par rapport aux véhicules bloqués ou retournés, où en est-on aujourd'hui? À l'heure actuelle, aucun camion n'est bloqué ou retourné. Ceux qui ont été bloqués à Kouré ont été libérés. Certes, nous avons instruit d'arrêter le chargement des camions sur les différents ports, mais comme la situation est réglée, nous avons dit de reprendre les chargements et les camions sont en train de rentrer. Le passe-avant est aussi en train d'être établi. Tout celui qui fait la demande, il lui est établi un passe-avant.
Dans le cadre des préparatifs du championnat national de lutte traditionnelle qui se déroulera du 25 décembre au 3 janvier 2019 à Tillaberi, la région de Tawa a organisé une présélection le 6 novembre à Keita où les meilleurs lutteurs ont été retenus. Salif Souley Katou, directeur régional de la jeunesse et des sports de Tawa, pour plus de précisions au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Nous sommes à la phase des éliminatoires au niveau des cantons, communes et départements. En principe, ces éliminatoires doivent prendre fin au niveau des départements. Et les équipes sélectionnées au niveau des départements sont attendues à Keita pour les éliminatoires qui vont avoir lieu du 10 au 20 novembre au niveau des chefs-lieux du département de Keita.
Il n'y a pas de difficultés rencontrées jusqu'à ce jour?
Difficultés par rapport à l'organisation, nous attelons, c'est devenu une tradition. Chacun sait sa part de responsabilité. C'est une affaire qui concerne tous les acteurs. Par rapport à ça, nous avons effectué une mission préparatoire terrain pour constater les sites d'hébergement, l'arène qui va accueillir ces éliminatoires et pour voir de visu ce qui est en train d'être fait.
Et puis la partie magazine de cette édition, plusieurs femmes d'Agadez se plaignent du harcèlement quotidien dont elles sont victimes et qui est perpétré par des migrants hébergés par l'OIM dans un quartier. On les écoute.
Nous sommes au quartier Azindoué à Agadez où ces femmes dont l'âge est compris entre 25 et 50 ans se seraient plaintes de harcèlement de la part de certains hommes qui sont hébergés dans le centre des migrants créé par l'Organisation internationale pour les migrations installée dans le quartier. La peur au ventre, quelques-unes d'entre elles racontent leur quotidien.
Nous, les femmes de Azindoué, ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous avons un sérieux problème.
C'est aux environs d'une heure du matin que deux hommes venus du camp d'OIM ont fait irruption dans la cour et ils ont tenté d'abuser de moi.
À partir de 20h, aucune femme n'ose sortir par peur d'être violée. C'est pourquoi nous lançons un appel au maire qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour empêcher cela.
Ils nous empoisonnent la vie. Quand on sort, il y a toujours un gros gaillard qui t'accoste et qui te harcèle. Que devons-nous faire?
Michel Yassimbe, ressortissant de Togo, logé dans le centre pour migrants de l'OIM, témoigne que dans la soirée, certains des pensionnaires du centre s'attaquent aux femmes.
C'est bien vrai ce qui se passe dans la soirée. Aux environs de 20h, il y a beaucoup d'immigrants qui font des accrochages à les femmes des gens de quartier, là où nous on est basé. Moi-même, j'avais dit, les OIM sont là, ils ne prennent pas responsabilité.
Au vu de la délicatesse de cette situation qui prévaut dans la commune urbaine d'Agadez, les chefs de quartier ont alerté les autorités de la ville. Suite à ces plaintes, le premier vice-maire du conseil municipal, Aboubakar Ajoël, a déclaré que des mesures seront prises pour mettre fin à ces harcèlements.
Nous avons été alertés par les chefs de quartier. Après investigation, nos femmes, nos sœurs ont été menacées. Des tentatives de viol, c'est une menace pour la commune de Bendagadez. Elle doit au moins respecter nos traditions et nos cultures. Nous allons prendre des dispositions que nous soient légales pour contrecarrer ces mal intentionnés. Tous ceux qui sont impliqués seront punis conformément aux lois et règlements dirigeants.
Suite à ces différents témoignages et réactions, les responsables du Centre de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, qui ont en charge la gestion de ces migrants, ont décidé de prendre les dispositions qui s'imposent pour remédier et mettre fin à ces harcèlements, a précisé le chef du sous-bureau IEM Agadez, Maurice Armel Miango Niwa. Agadez, Anissé Karim pour le studio Kalangu.
C'est la fin de ce journal et bonne suite de programme.